Voisin, qui est paysagiste à l'école de paysage de Blois. Voilà, donc Lolita, dans sa pratique pédagogique, a beaucoup travaillé sur les questions d'écoute avec les étudiants, sur comment est-ce qu'on peut faire travailler l'écoute dans une pratique d'étudiants en formation en paysage, et comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de situations de travail, à l'écoute de transformation des lieux. Donc, alors, vous présenter un peu ce travail-là, aussi pour vous dire que Lolita a produit des émissions de radio pour une radio locale à Blois, c'est ça, qui s'appelle le Studio ZEF. Voilà, et aussi vous dire que en fait, il va y avoir un peu deux interventions de Lolita aujourd'hui et je pense demain, avec une toute petite modification du programme, parce qu'on avait voulu aussi faire quelque chose de plus court, à partir de ce qu'elle a pu produire sur cette émission de radio. Sur le programme, on a mis demain matin. En fait, on s'est dit que demain, il fallait vraiment que vous vous lanciez sur le terrain, la formation des groupes, etc. Donc on prendra probablement un temps jeudi, en fin de journée, sur le temps que je partageais et qui est prévu. Voilà, où Lolita vous proposera de partager quelques écoutes, vous montrer aussi ce qu'elle a pu réaliser. Dans un sens, ça pourra peut-être donner aussi quelques idées sur des façons de faire pour Plateau Radio. Voilà, mais de toute façon, pour le programme de demain, on fera un petit point en fin de journée. Voilà. Et puis je crois qu'après l'intervention de Lolita, on va retrouver... Vous allez revenir, c'est ça, ouais, pour faire un truc un peu... Enfin, un peu un échange, tout le monde ensemble avec les ateliers.
Merci beaucoup Sébastien, un grand merci à l'équipe du Cresson pour sa proposition. Je suis très contente d'être avec vous cette semaine et en plus rassemblée avec le LALCA cet après-midi. Je pense qu'il y aura plein de liens possibles, je pense. Et juste avant de commencer, le premier lien, c'est que c'est mon fond d'écran, c'est aussi une caravane rouge. C'était pas prévu, je voulais pas parler de mon fond d'écran, mais c'est un projet que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années qui s'appelle la Radio Clou Caravane et qui restait en résidence près des gens pour raconter la vie des gens et donc dans des lieux très différents. Et donc voilà, le rouge, il n'y a pas besoin d'expliquer, je crois que c'est une bonne piste. Enfin voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Donc. Voilà, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je suis paysagiste, donc je ne sais pas si tout le monde connaît ce métier. Donc c'est un métier qui est un métier de la conception spatiale, on va dire, qui s'occupe de la transformation des espaces avec un goût, un intérêt, une attention très, très poussée sur la question du vivant, donc des vivants, donc humains et flore, faune, et puis plus largement les mouvements naturels. Je travaille à l'école de la nature et du paysage à Blois, qui est une des quatre écoles de paysage en France. Il n'y en a que quatre pour être paysagiste. Donc école où je suis enseignante-chercheuse et où j'ai été directrice pendant 5 ans. Donc je me suis beaucoup posé des questions de pédagogie et d'organisation collective, mais cette mission est terminée, donc j'ai de nouveau un petit peu plus de temps. Et j'ai aussi donc une pratique, comme Sébastien l'a dit, radiophonique, par goût effectivement de la vie des autres au départ, donc au moment du montage du projet de la Radio Clone Caravane il y a une dizaine d'années. Et ensuite j'ai eu l'occasion de travailler avec les bénévoles de la radio Studio ZEF, donc une radio associative, un peu comme Radio Campus qu'on a rencontré ce matin, sauf que c'est une plus petite radio. Et là j'ai eu l'occasion de monter des émissions de radio, donc on en parlera sûrement à un autre moment, mais ça explique certainement mon goût aussi pour l'écoute qui s'est fait de manière lente et... non professionnel, c'est-à-dire à force de me renseigner, d'écouter des personnes qui travaillent sur le son, sur la radio, et ils sont très nombreux et très différents les uns des autres. Donc c'est petit à petit que ça s'est fait. Et je voulais aussi rappeler que j'arrive de Blois. Donc Blois, c'est une petite ville, enfin c'est une ville moyenne, ça fait partie de la catégorie des villes moyennes, entre Orléans et Tours à peu près, donc sur la vallée de la Loire. Et que ça, je pense, ça va influencer si je le précise, c'est que ça va un petit peu influencer le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est une ville qui, d'une certaine manière, est à taille. On arrive à peu près à concevoir la complexité de son organisation et de ses politiques publiques dans une seule tête. Enfin, c'est mieux d'être plusieurs quand même pour y penser, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une échelle, on arrive à peu près à avoir une complexité, donc en pensant. La ville, évidemment, les faubourgs qui se sont transformés en banlieue, la périurbanisation qui est très importante. Et puis on est sur une ville donc, qui est sur un fleuve, donc avec des questions d'inondation, d'érosion, d'agriculture, petite agriculture comme agriculture intensive. Et tout ça, on peut essayer d'y penser ensemble, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a certainement une complexité plus abordable qu'en travaillant sur une telle métropole que celle de Lyon, par exemple. Et donc, je vais vous parler tout particulièrement ce soir de la question, d'un atelier pédagogique et de son évolution. Donc, c'est à la fois, je pense que je vais à la fois essayer d'apporter des éléments liés à l'écoute, qui est un des éléments de cet atelier pédagogique, mais aussi des questions pédagogiques. Je vais essayer de pas trop les développer parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je vais être un peu bavarde sur le sujet. Et je pense que c'est moins ce dont on a besoin à ce stade de l'école d'hiver. Donc je vais essayer de, si je vais trop vite ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc je vais vous parler d'un atelier qui a lieu en quatrième année. Donc c'est une école en 5 ans, l'école de la nature et du paysage. Les étudiants font les 5 ans quasiment, enfin il y a une façon d'entrer en troisième année, mais globalement la promotion elle est constituée en première année, elle finit ensemble en cinquième année. Et donc les étudiants en quatrième année, enfin, on change d'échelle chaque année, c'est-à-dire qu'on commence plutôt sur un petit espace public en première, deuxième année, puis en troisième année c'est l'échelle urbaine, et quatrième année c'est l'échelle territoriale. Cinquième année c'est l'échelle du travail de fin d'études, donc l'étudiant choisit l'échelle qui lui convient, et puis de toute façon il fait des allers-retours entre toutes les échelles. Mais donc quatrième année c'est l'échelle territoriale, et je suis en particulier responsable des enseignements qui sont liés aux questions politiques, qui est un peu ma spécialité de recherche que j'ai notamment poussée dans le doctorat. Et donc, il y a un enseignement que je transforme année après année qui s'appelle paysage et... au départ, c'était paysage et politique publique. Maintenant, ça s'appelle paysage et projet de territoire. Et on s'intéresse sur la manière dont, en tant que paysagiste et aussi en tant qu'étudiant, finalement, on peut s'intéresser à la manière dont une politique publique naît dans un territoire et comment elle va évoluer et comment on peut la faire évoluer. Donc c'est des questions qui permettent aux étudiants d'une certaine manière de, enfin on va le développer tout au long de la présentation, mais de mieux maîtriser, d'avoir peut-être aussi moins peur des questions de politique publique qui sont souvent vues comme complexes, appartenant souvent aux élus, aux techniciens justement des collectivités, et de se dire qu'en fait une politique publique elle est collective, elle est publique et on peut y réfléchir ensemble. Voilà, donc par contre, ce sont plutôt des politiques publiques à l'échelle territoriale, donc plus sur des questions par exemple d'alimentation, des questions d'agriculture, des questions d'eau, enfin, il peut y avoir des tas de sujets qui s'offrent à nous. Et juste pour citer ça, mais je suis accompagnée depuis quelques années d'un collègue qui s'intéresse à ce travail-là et qui d'ailleurs connaît des collègues du Cresson, qui s'appelle Olivier Godin, et qui lui est philosophe et vient notamment de la philosophie pragmatique, donc du pragmatisme, et donc notamment ses apports m'aident aussi à réfléchir, et on a coécrit des articles ensemble, donc c'est vrai que récemment il y a aussi cette entrée-là dont on a un peu entendu parler hier qui nourrit mes réflexions. Donc ça c'était l'image que je voulais vous montrer pour cette introduction que je viens de terminer, mais qui envoie des étudiants, dont une étudiante qui a un enregistreur et qui est avec un maraîcher qui vient de s'installer, un jeune maraîcher en reconversion, mais qui vient d'arriver sur ces nouvelles terres. Et donc, vous voyez là, on est dans la zone inondable de la Loire. On voit une digue derrière eux. Et puis, il y a la Loire qui est derrière cette digue, et puis il y a le coteau au fond. Donc là, on pourrait dire qu'on est dans un paysage typiquement de Loire. Peut-être un peu loin de l'image touristique qu'on en vend, mais c'est quand même ça la réalité. Alors, j'ai découpé... donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué. Donc c'est comment pratiquer l'écoute dans une formation de paysagiste concepteur. Et donc avec ces questionnements-là que je viens déjà de vous expliquer, c'est comment comprendre la mise à l'agenda de problématiques territoriales. En fait, comment des problèmes vont être saisis par ça va être mis à l'agenda, donc saisi généralement par des citoyens ou par des associations, et puis mis à l'agenda politique, donc prise en charge par les politiques. Donc soit ça vient par le bas, donc c'est-à-dire c'est plutôt des manifestations qui viennent de collectifs habitants par exemple, soit ça peut venir aussi par le haut, d'injonctions nationales ou européennes par exemple, et comment un territoire s'en saisit. Il y a plein de lettres qui ont sauté, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Et donc c'est important, c'est les questions un peu générales que moi je me pose en tant qu'enseignante, que je transmets aux élèves, mais disons que ça les traverse dans ces questionnements plutôt que je suis même pas sûre que je les formule comme ça, telles quelles, avec eux directement, là, je l'ai fait pour vous. Et donc vous voyez, il y a derrière quand même l'idée de capacité d'action, c'est-à-dire comment on peut influencer en fait ce processus, comment on peut y participer. Donc on travaille pour ça avec des collectivités locales qui viennent nous voir, là c'est vraiment une co-construction, c'est-à-dire Moi, je sais en tant qu'enseignant que j'ai envie de travailler sur ces sujets-là, et le mieux, c'est de travailler avec des collectivités qui ont les mains dedans. Et donc, on travaille avec le Pays des Châteaux, donc, qui est une collectivité qui est un syndicat mixte, en fait, qui est chargé de, notamment au départ, la politique touristique, mais qui récemment prend en charge de plus en plus de politiques territoriales qu'on pourrait quasiment qualifier d'intérêt général. Enfin, on espère que toutes les politiques publiques le sont, mais notamment la question de l'alimentation qui a particulièrement été développée ces dernières années dans les collectivités, du fait notamment de l'accélération majeure qui a été la crise du Covid. Et donc, juste pour prendre par exemple la question alimentaire, on a travaillé sur plusieurs sujets, mais pour prendre la question alimentaire, en fait, c'est une question qui est éminemment complexe. C'est que tout de suite, en fait, on va pouvoir réfléchir à de très nombreuses aspects de cette politique, déjà parce que ça touche un très grand nombre d'acteurs. Donc nous, au départ, on travaille avec le Pays des Châteaux. Donc le Pays des Châteaux, c'est des élus et des techniciens. Les techniciens, c'est les salariés de la collectivité qui sont généralement qui ont un métier, par exemple d'architecte, d'urbaniste, d'agronome. Il y a plein de métiers différents dans la communication, enfin, il y a plein de savoirs particuliers. Mais c'est aussi la question de la ressource naturelle, donc la question de la santé des sols, de la disponibilité en eau, la question du foncier. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être aussi autour des politiques foncières, la question de la production agricole. Alors évidemment, là, ça comprend les agriculteurs, les syndicats d'agriculteurs, des tas d'acteurs économiques qui tournent autour des agriculteurs, etc. Donc ça, c'est très vaste aussi. Les logiques économiques du transport et de la valorisation des denrées alimentaires. Donc là, on peut imaginer tous les transformateurs, tous les métiers qui vont être liés au transport de ces marchandises, les lieux de vente, d'achat, de consommation, la question du recyclage des matières, notamment des biodéchets. Enfin, en fait, il y a plein de sujets. Et donc, évidemment, ça soulève des questions très complexes qui touchent des tas de personnes différentes. J'en ai fait un peu la liste en bas, mais donc des très grandes diversités de personnes. Des personnes avec qui les étudiants paysagistes n'ont pas forcément été mis en contact avant ce type d'atelier. Enfin, bien sûr, ils ont déjà vu des élus, etc. Mais par exemple, une banque alimentaire ou quelqu'un qui travaille dans le transport ou dans la mobilité des denrées alimentaires, ce n'est pas forcément leur habitude. Et donc, il y a forcément une question de comment rencontrer cette complexité-là, et notamment en allant discuter avec ces gens-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la posture de l'écoute, on en fait, parce que c'est vrai que là, j'ai vraiment envie d'inclure les étudiants avec moi. On est un collectif, puisqu'à chaque fois qu'on monte un atelier, ils participent avec moi ils participent à ce qui va se passer, en fait. Donc on utilise la posture de l'écoute comme à la fois un exercice, une pratique et un questionnement. Alors, les ateliers sont tous organisés comme ça. Alors, pour pouvoir vous le simplifier aujourd'hui de cette manière-là, il a fallu 10 ans d'atelier, donc au départ, c'était moins clair que ça. Mais tout se passe sur une semaine, donc c'est un peu comme la Winter School, c'est très court. Et en même temps, on peut faire plein de choses en une semaine. Il y a toujours un temps d'enquête sonore. Alors là, c'est à la fois, moi, je pense, mon goût pour la rencontre avec des gens très différents, que je voulais transmettre aux élèves, ou en tout cas leur permettre de vivre la même expérience, notamment celle que j'ai eue dans la Radio Plume Caravane que je vous présentais au départ. Et puis la question du son qui à l'époque, en 2013, n'était absolument pas présente au sein de l'école. On est plutôt dans une école, les paysagistes, peut-être aussi comme les architectes, c'est plutôt des écoles qui travaillent la question de la vue. Donc la question de l'ouïe n'est pas forcément très développée. Et c'est aussi à l'époque mon obsession radio. Enfin, c'est vraiment parce que à ce moment-là, je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Donc il y a un grand temps d'enquête sonore qui comprend à peu près la moitié de la semaine. Ensuite, il y a un temps de fabrication, parce qu'en fait, à partir de la question qu'on nous a posée, donc vous verrez qu'il y a plein de questions différentes qu'on nous a posées, et je ne peux pas toutes vous les détailler, ça va être trop incompréhensible, mais à partir de la question qui nous sont posées, on essaie de fabriquer quelque chose à partir de cette enquête sonore. Et je pense que là, il y a quelque chose de tout aussi intéressant. Enfin, on pourrait faire qu'une enquête sonore, ce serait déjà très intéressant. Mais le fait de fabriquer quelque chose à partir de cette enquête sonore apporte encore autre chose, à mon avis, à la valeur de cet exercice, qui rejoint un peu ce que Lolalka racontait juste avant, sur en 3 heures d'écoute et de discussion collective sur des archives sonores, on arrive à produire une pensée de conception, en fait, assez rapidement. Mais nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi, ça ressemble. Et enfin, il y a toujours un temps de restitution des nouvelles personnes extérieures à l'école, donc soit les personnes qu'on a rencontrées pendant l'enquête, soit d'autres personnes, ça dépend un peu. Mais là, l'important, c'est que les étudiants C'est exactement aussi ce que tu disais juste avant, c'est que les étudiants restent absolument en mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas une restitution dans le sens d'un rendu, d'une performance, mais c'est bien l'idée de remettre en débat ce qu'on a discuté et de voir à quel point le travail, que la politique publique sur laquelle on est en train d'intervenir, elle est en évolution et que le travail qu'on a mené participe à la faire évoluer. Et on fait toujours aussi un bilan, ça c'est plutôt pour l'aspect pédagogique, un bilan personnel et collectif avec les élèves. Et après, il y a tout un travail d'édition, de diffusion. Alors là, c'est moi qui m'en charge, c'est en dehors de l'atelier. Donc parfois, ça a été des journaux, des émissions de radio, il y a eu des petits livres. Je vous les ferai passer tout à l'heure quand j'y arriverai. Mais là, c'est plutôt, je vous le dirai après, bon, c'est plutôt pour des questions aussi d'archives, sauf que je n'ai pas encore pensé à les déposer aux archives municipales. Donc ça, c'est traduit, c'est juste traduit de manière concrète, c'est exactement la même chose qu'avant, mais c'est traduit de manière concrète, notamment sur un des ateliers qui est celui-ci, c'est-à-dire que c'est toujours dans la question alimentaire. On nous a posé la question de quand la collectivité a décidé de mettre en place une politique alimentaire à partir de 2017. Ils nous ont demandé en 2018, mais en fait, comment on fait pour s'organiser? Est-ce qu'il faut un nouveau conseil? Est-ce qu'il faut une nouvelle collectivité pour gérer ça? Est-ce qu'il faut une nouvelle institution? Et donc, les étudiants ont réfléchi sur la création d'une nouvelle institution qui s'occuperait de la question alimentaire. Donc, on nous avait forcé la main sur le nom, ça s'appelle Conseil local de l'alimentation. Mais donc, tout le sujet, c'est ça. C'est-à-dire que les étudiants ont vraiment essayé d'imaginer, en fonction de leurs enquêtes, évidemment, comment créer un conseil local de l'alimentation, quelles seraient ses règles du jeu, quelle serait son implication, etc., etc. Mais donc là, ça vous remontre comment est organisé l'atelier. Je pense que c'est pas trop la peine de... Enfin, ça peut juste faire le lien, parce que j'essaie de me projeter dans la semaine de l'école d'hiver, mais ça peut juste faire le lien entre certains moments qui sont clés quand même. En fait, c'est plus clair, je trouve, avec le schéma précédent. C'est les moments de croisement qui sont clés. C'est-à-dire que le moment où on a fini... Enfin, où on considère que l'enquête sonore commence à aboutir à des idées qui commencent à émerger, là, il y a vraiment un temps important. Et généralement, c'est un temps où c'est très intéressant de se croiser entre les groupes. On met souvent à ce moment-là en place un moment d'échange collectif. Et puis, le moment très important, c'est comment on fabrique... donc là, c'est l'émission de radio qu'on va réaliser vendredi. Comment on fabrique le moment de la restitution? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe à ce moment-là? Et donc là, c'est effectivement un temps important. Le reste de l'atelier est assez souple, c'est-à-dire que c'est les étudiants autant que moi qui fabriquons les moments, qui voyons à quel moment il faut accélérer, ralentir, débattre, se taire, s'éloigner, se rapprocher. C'est assez souple. Donc pour illustrer ce propos, quelques images rapidement. Donc là, vous voyez plutôt les photos de la première étape où les étudiants sont sur le terrain, dans des contextes très différents, avec un matériel sonore assez pauvre, on est sur des enregistreurs assez basiques. Si on avait plus de moyens, on pourrait avoir plus de matériel, ce qui serait pas mal. Et puis, vous voyez, en extérieur, en intérieur, l'importance d'aller, j'y reviendrai après, mais l'importance d'aller dans les lieux de travail des autres, et non pas d'accueillir les autres dans son propre lieu de travail, donc de sortir de l'école, et d'aller dans le lieu de travail des autres. Et le lieu de travail, souvent, il y a certaines personnes, on a tout de suite conscience qu'un agriculteur en haut à droite, par exemple, qui est un jeune maraîcher, on imagine tout de suite que son lieu de travail, c'est des serres, dans notre imaginaire, ça va. Mais le bureau de travail de l'élu, par exemple, qu'on voit au milieu à gauche, ou le bureau de travail de la technicienne qu'on voit au milieu à droite, en fait, c'est des lieux qui racontent énormément de choses et qui fabriquent en fait la pensée, là d'où vient la pensée de ces personnes-là, qui ont quand même souvent beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est quand même important, à mon avis, de se questionner sur ces lieux-là aussi. Donc là, toujours pour illustrer, moi j'aime bien cette double photo, parce qu'en fait, on voit des étudiants à gauche qui entrent vraiment chez quelqu'un, et ce chez quelqu'un, c'est un peu sombre, en fait, c'est un peu un inconnu, c'est un vrai inconnu, bon, c'est l'entrée d'une ferme. Mais vous voyez, il suit la personne, donc il y a deux élèves qui suivent la personne qui est à l'intérieur, qui les fait entrer dans son monde. Et ça, je pense que c'est vraiment un seuil très important, ce moment-là. Et puis à droite, j'aime bien cette photo, parce qu'on a cette étudiante qui prend des notes. On sent, après, bon, c'est moi qui me raconte, j'étais pas avec eux, c'est pas moi qui fais les enquêtes avec eux. Moi, je reste à l'école au cas où ils ont besoin d'échanger pendant ce temps d'enquête. Mais on sent, j'ai l'impression qu'on sent le questionnement dans ses yeux. Elle vient d'entendre des choses, elle retourne certainement, c'est le chemin là, certainement pour rentrer... après l'entretien, elle regarde certainement ses camarades qui sont à côté d'elle. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la complexité, j'ai l'impression, dans ce qu'elle imagine. Donc, cette idée du bureau que je trouve très importante. Qu'est-ce qui est affiché dans le bureau? Comment résonne le bureau? On pourra parler après du son. Là, c'est une banque alimentaire. C'était aussi le moment où on réfléchissait à la question de l'alimentation. voilà, qu'est-ce qui est affiché sur les murs, dans le bureau, qu'est-ce qui est dans sa bibliothèque. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes, on va passer rapidement. Et donc, ils n'ont pas tous le casque sur les oreilles. Quand j'ai fait la présentation, je me suis dit zut, parce que moi, je voulais vraiment vous conseiller de mettre le casque. Donc, je me suis dit zut, les étudiants ne vont pas me servir forcément à vous transmettre ce conseil. Mais bon, vous voyez quand même l'intention du geste de prise de son. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir les oreillettes, ça change tout. Et on voit bien, enfin, moi, j'aime aussi beaucoup cet outil, on voit bien la concentration. Que ça, enfin, on est presque, elle est, l'étudiante à gauche est en train, donc elle interroge une agricultrice à la retraite qui élève des vaches dans une ferme pédagogique, et on sent un autre rapport à la discussion que d'habitude, quoi. Et puis c'est des moments aussi, les étudiants ils écoutent pas que les paroles, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'entretien, mais on en discute ensemble et je les encourage à s'interroger grâce à l'enregistreur sur les sons du quotidien, les sons des gestes, les sons des lieux. Donc ils expérimentent différentes choses, comme peut-être vous serez amené à le faire, vous aurez envie de le faire. Là par exemple, elle enregistre le fait d'attacher une caravane à l'arrière d'une troisième caravane. Et puis ensuite, c'est le temps de l'atelier. Donc là, on retourne à l'école du paysage, donc à Blois, on est tous ensemble. Les étudiants travaillent en petits groupes de 3-4 et c'est là où ils fabriquent quelque chose à partir de ce qu'ils ont entendu. Et c'est là aussi où, bien sûr, il y a à la fois des intuitions et des choix, beaucoup. Et puis ça, c'est le moment de la restitution. Donc là, j'ai pris un exemple précis, c'est toujours le... Enfin, je l'utilise parce que c'est surtout celui où j'ai plus de photos réussies, mais c'est celui qu'on a fait cette année-là, c'est-à-dire c'est sur la question du conseil local de l'alimentation. Là, la restitution, on a choisi de le faire sous forme d'un grand repas dans le hall de l'école, donc qui est cet espace que vous voyez là. Et les étudiants sont... Chaque groupe d'étudiants présente ce qu'ils ont fabriqué. Donc ils ont des idées pour le conseil local de l'alimentation, hein, qui est encore complètement fictif. Mais ils ont des idées, ils ont des outils, ils ont des choses à dire. Donc là, on voit bien au milieu à droite l'étudiant qui présente son travail. Et on le présente à 50-60 personnes qui peuvent être théoriquement impliquées par la question alimentaire localement. Donc ils sont tous très différents. Ces personnes, ils ne se connaissent pas tous d'ailleurs entre eux. Et ils sont invités à manger. Donc ils s'assoient à une table un peu au hasard pour l'entrée. Ils vont chercher à manger, ils s'assoient. On change de table au moment du plat, on change de table au moment du dessert, donc ça leur permet de voir 3 travaux différents d'étudiants. Mais surtout, ça leur permet de se retrouver, on le voit ici en haut à gauche, ça leur permet de se trouver entouré de gens qui, un peu au hasard, quoi, qu'on n'avait pas prévu, enfin, qu'on ne connaît pas, on n'est pas dans un entre-soi, du coup on discute. Et il se passe, on sent dans cette photo qu'il se passe quelque chose aussi à ce moment-là, entre... Donc là on voit les photos en plus grand... on voit qu'il peut se passer à ce moment-là quelque chose entre les personnes qui sont invitées. Donc ça, c'était d'autres photos. C'est le travail qu'on a mené l'année dernière, enfin cette année, là, en 2023, l'année dernière, sur la question de la compréhension de la complexité des paysages agricoles, qui est une vraie question dans un territoire comme Blois. Donc, c'est un peu nos sujets à Blois, c'est peut-être moins la question de l'énergie hydroélectrique, quoique il y a un peu de barrage. Et donc là, les étudiants, au moment de la restitution, ont fabriqué une marche, une espèce de marche spectacle qu'ils ont fabriquée à destination d'un public mixte, pareil. Et du coup, on voit la différentes personnes invitées qui sont tous différents, enfin, ils ne viennent pas du tout du même endroit. Il y a des techniciens, il y a des élus, il y a une responsable d'association d'éducation et environnement. Enfin, il y a différentes personnes qui se retrouvent à un moment donné complices de la même aventure et qui vont parler entre eux, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc pour... j'espère que je ne suis pas trop longue. Ça va, il me reste 20 minutes, un quart d'heure. Okay. Donc pour essayer, enfin je me suis dit que pour aujourd'hui, ce qui pouvait vous servir pour la Winter School, c'est d'essayer de découper cette expérience un peu en trois idées. En fait, parce que dans cet exercice pédagogique, ce que j'en retiens, c'est disons 3 attitudes. Voilà, je vais essayer de vous parler de 3 attitudes. La première, c'est se déplacer. La deuxième, c'est enregistrer. Et la troisième, c'est utiliser. Tout ça fabriquant peut-être ce que je pourrais envelopper dans la notion d'écouter, mais qui est infinie, donc on pourrait bien sûr compléter. Donc la question de se déplacer me semble essentielle parce que, comme je le disais, les étudiants, par exemple, elles sont invitées à travers l'idée de la rencontre, mais aussi l'idée du casque et de l'enregistreur, d'aller écouter, d'aller rencontrer d'autres personnes. Et donc là, on a cette idée de se déplacer chez quelqu'un. Et donc, pour se déplacer, déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la dernière phrase, on rencontre le lieu de travail des autres, on rencontre les gestes qui façonnent ces lieux-là, en fait. Et en fait, un paysage, c'est ce que, je ne sais plus qui disait ça hier, je crois que c'était toi Marc, un paysage ne cesse de se transformer par des gestes de maintenance, de fabrication, de transformation. Tu montrais un tableau de Bruegel, je crois. C'est exactement cette image-là, c'est-à-dire que le paysage, c'est le résultat du travail, alors pas que du travail des humains, hein, mais en tout cas en partie du travail des humains, et que ce travail-là, certainement que la question de la rencontre et de l'écoute, enfin de ce déplacement à travers ces exercices pédagogiques, permettent d'en prendre conscience d'une certaine manière. Ensuite, c'est la question de pister. En fait, là, on est un peu comme à la recherche d'indices. C'est aussi quelque chose qui a été dit hier. La question de l'écoute, du micro notamment, permet de se questionner sur le son qu'on a envie d'attraper. Et ce son, il n'est pas forcément réflexif à ce moment-là. Ça, on n'a pas forcément l'idée. Parfois, on a la main, l'oreille reliée à la main qui tient l'enregistreur, qui décide à notre place. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on piste qui sont souvent liées à nos propres intuitions ou à nos propres hypothèses. Tu parlais tout à l'heure d'hypothèses. Parfois, il y a une sorte d'idée qui émerge. Et si ça était lié à ça? Et d'un coup, on va lire le monde à travers cette hypothèse, et c'est pas grave, ça m'avance comme ça aussi. Mais du coup, on va aller pister des choses. Donc ça, c'est très physique avec le micro, mais c'est aussi évidemment dans la façon dont on pose les questions, dans la façon dont on va ou pas. Parce que dans un groupe, eux, ils sont 3-4 étudiants, parfois un peu plus. Il y en a qui vont se taire, il y en a qui vont prendre la parole, il y en a qui vont utiliser l'autre étudiant. Ils connaissent un peu son caractère ou ses intérêts pour ensuite emmener la personne rencontrée dans un terrain qui l'intéresse en termes de dialogue. Donc en fait, il y a toutes ces attitudes-là aussi. Hein. Quand on pistait, c'est pas que effectivement le geste de la main et du micro, mais je trouve que c'est une bonne métaphore quand même. D'où l'importance d'avoir absolument le casque sur les oreilles, parce qu'en fait, c'est ça qui vous permet de savoir ce que vous pistez. Le micro, sinon, c'est rien d'autre qu'un objet qui vous embête dans votre main, parce que vous pouvez pas le placer correctement. Donc, moi, je crois vraiment que c'est le conseil que je peux vous donner, surtout si c'est plutôt vos premières fois, c'est de relier votre main à votre oreille. Et c'est aussi, pour aller dans la même piste, c'est prêter attention aux appels que l'on pourrait entendre. Ça, c'est notamment en discutant avec Olivier Godin sur la question de Nietzsche éducateur qu'on peut essayer de pister ça. C'est-à-dire que, en fait, ça revient à la question de qui on est, qui enquête, qui écoute. Et en fait, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la vocation, qui est d'ailleurs dans le registre du vocal, mais on pourrait entendre quelque chose parce qu'on est nous-mêmes aussi, parce qu'on est différents les uns des autres, et qu'on n'entend absolument pas deux fois la même chose, enfin, on ne peut pas entendre deux choses de la même manière. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant, d'où la singularité au moment, enfin, dans l'exercice qu'on va faire cette semaine, on est très nombreux, mais en même temps, il y a autant de personnes singulières qui vont entendre ou prêter attention à certains appels qui peut-être nous sont plus propres qu'à d'autres. C'est l'idée aussi, ouais, qu'on se dote au fur et à mesure plutôt qu'on... Enfin bref. Mais, et puis il y a la question évidemment, je ne l'ai pas réécrit là, mais la question de la marche, du déplacement, hein, ça revient avec la question de pister. C'est-à-dire que dans la marche, il y a un engagement particulier, c'est ce qu'on a entendu aussi hier avec les enfants, la vidéo des enfants de la Romanche qui dit on marche, qu'à un moment donné ils disent on marche sur, je ne sais plus quoi, ça c'est marcher sur, c'est un engagement du corps, un engagement politique, etc. Et ça je pense qu'il y a quelque chose de très... Enfin, de très important en fait dans cette attitude-là, dans cette démarche-là, et que cet exercice pédagogique mais que plein d'autres exercices à l'école du paysage montrent, puisqu'il y a énormément de rapports au terrain. Mais voilà, marcher à tel endroit, marcher lentement, marcher vite, aller dans des lieux où on n'irait pas, mais du coup évidemment comment on y va, etc. Aller chez les autres, aller dans des lieux privés, tout ça c'est des questions importantes. Voilà. Donc là, typiquement, on a juste à titre d'exemple, mais c'est les étudiants qui ont décidé d'emmener, donc ils avaient rendez-vous avec cet élu, qui a des parcelles communales qui vont petit à petit être... ils vont embaucher un maraîcher communal pour gérer ces parcelles. Donc là, on est toujours sur la question de l'alimentation. Mais là, les étudiants lui ont demandé finalement d'aller voir ensemble cet espace plutôt que de rester dans son bureau. Donc là, ils ont fait le choix de se déplacer ensemble. Ensuite, la deuxième attitude, en quelque sorte, que je voulais essayer de réfléchir avec vous, c'était effectivement cette question d'enregistrer. C'est pas du tout anodin. D'ailleurs, on se pose pas souvent la question, mais qu'est-ce que ça ferait si on avait un micro ouvert, un zoom par exemple, avec un casque sur les oreilles. mais qu'on n'appuyait pas sur le bouton enregistrer. Là, on serait juste dans une sorte d'instrument qui ouvre une oreille différente. Mais bon, à partir du moment où on appuie sur le bouton rouge, il se passe quelque chose quand même de particulier. Alors d'une part, il y a effectivement cette idée que notre corps devient un corps-oreille, c'est aussi quelque chose, j'ai essayé de reprendre des choses qui nous ont été dites hier pour essayer de faire des liens, donc là on retrouve les travaux de d'Ingold, l'anthropologue, avec cette idée que en faisant corps avec son oreille, enfin en étant guidé par son oreille, on a accès à des choses différentes de ce qu'on a d'habitude. Donc là on peut d'une certaine manière déjouer nos habitudes, voire même déplacer des a priori, ce qui veut dire quand même d'une certaine manière de, j'aime bien ce terme, de suspendre son jugement. Ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir de jugement, ça veut dire le suspendre un instant. Et moi je crois que c'est ce que j'aime bien, c'est d'ailleurs ce qui se passait au moment de la Radio Clown Caravane. Pour être capable, pour avoir envie d'accueillir la parole complexe des autres, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas la même trajectoire, etc., il y a peut-être un peu inconsciemment besoin de suspendre son jugement. C'est flagrant quand on travaille sur la question alimentaire, quand on travaille sur la question des paysages agricoles. En fait, c'est flagrant quand on parle d'espace, parce qu'en fait, c'est plein de conflits, c'est plein de contradictions. Alors, sur les questions alimentaires et agricoles, c'est très facile de penser tout de suite à l'opposition radicale qu'on fait entre l'agriculture biologique de proximité, soutenue par la collectivité, et quand on parle de l'agriculture intensive en pleine Beauce, avec... un agriculteur qui souvent n'a absolument pas de soutien local. Il a des subventions, mais n'est pas relié à un réseau local. Il n'est pas du tout reconnu, par exemple, par la collectivité. Personne ne vient visiter sa ferme, etc. Et en fait, pouvoir rencontrer ces deux personnes à parts égales, ça nécessite à un moment donné de pouvoir suspendre son jugement. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, parce que peut-être que ça nous fait arriver à un état qui est un état un peu singulier, un peu particulier dans nos vies, en plus en tant que... Alors, je ne sais pas de vos formations, mais en tant qu'architecte, en tant que paysagiste, en tant qu'urbaniste, souvent pour fréquenter ces écoles, on nous demande de prendre, enfin, d'avoir des jugements, d'avoir des positions, d'avoir des partis pris. Donc là, il y a quand même un moment, un peu de flottement, on peut se permettre de soulever un petit peu ça. Je crois que ça fait aussi beaucoup de bien pour ouvrir certainement de nouvelles portes. Et enfin, alors oui, non, après j'allais rajouter des choses, mais enfin la quatrième chose qui me semble intéressante, c'est que ça veut dire, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, c'est se poser la question des pratiques langagières, des langues qui sont différentes, variées. Hier, on a parlé aussi de ça un peu, de faire attention aux voix, à leur timbre, mais aux pratiques langagières aussi, c'est-à-dire finalement comment on parle. Est-ce qu'on peut prêter attention à des manières de parler, de dire, qui ne sont pas forcément communément admises ou qui ne sont pas forcément... ben voilà, dans les mots un peu dominants, j'observe beaucoup les étudiants parler, et il y a souvent, au fur et à mesure des années, un nombre de mots de vocabulaire qui se réduit pour utiliser un peu toujours les mêmes. Comment on peut la réouvrir tout le champ des pratiques langagières et s'interroger. Il y a un livre intéressant là-dessus qui s'appelle Provincialiser la langue. Non, Provincialiser la langue, je crois. De Cécile Canu. Et qui justement pose la question de est-ce que des pratiques langagières peuvent se retisser avec le territoire et avec sa spécificité. Parce que peut-être c'est pas clair, mais tout ça pour dire, parce que je pense qu'il y a énormément de choses dans les mots que les gens vont dire, et donc dans ces mots on peut puiser des choses qui sont proprement singulières au lieu. Enfin, juste pour terminer, c'était cette question de tisser dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'en fait en enregistrant on dépose des traces. Alors souvent il y a la prise de notes sur le carnet, potentiellement ça peut être la manière dont on range, ça a été dit par l'archiviste, mais la manière dont on range les enregistrements, là on trace des choses, on écrit des choses qui généralement se croisent entre elles, et puis on tisse aussi dans le temps. C'est ce qu'hier à la soirée on entendait le preneur de son des machines qui font monter la montagne, qui disait que ce qui était intéressant, c'était d'enregistrer, d'oublier, puis d'y revenir. Donc là aussi, on tisse d'un coup, c'est un autre soi, un autre soi qui a changé, qui va écouter l'enregistrement d'un soi précédent. Donc là, il y a quelque chose, à mon avis, d'intéressant aussi. Et enfin, évidemment, c'est la question de l'archive, c'est qu'à partir du moment où on appuie sur l'enregistrement, enfin, peut-être même avant, mais donc à partir du moment où on appuie, on crée une archive, on laisse une trace. Et ça a évidemment une valeur infinie dont je ne suis pas la mieux placée pour parler dans cette salle. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la diversité des sujets sur lesquels on est intervenu depuis 10 ans. Ça part toujours de conflits, hein, puisque moi, je parle de politique publique, hein, donc ça part quand même toujours d'essais de résolution de conflits. Hein, les politiques publiques, généralement, essayent d'améliorer la vie des gens, normalement. Et à chaque fois, on s'est interrogé sur des manières de restituer ce travail, mais il y a toujours un travail d'enquête sonore. Donc il y a toujours un archivage de tout ce qu'on a entendu. Les étudiants ont à peu près entre 40 et 50 entretiens après ils sont répartis en groupe, hein, ils ne font pas les 50 eux-mêmes. Et après, donc en bas en bleu, c'est les différents outils qu'on a utilisés. Donc par exemple, on a utilisé le fait de réaliser des émissions de radio, des jeux de société, des livres dont vous êtes le héros. On a essayé une machine théâtrale, je vous en parlerai très rapidement à la fin. On a essayé une marche récemment. Et ça, c'est aussi parce qu'on s'interroge en même temps avec les élèves sur les moyens de débat et de restitution. C'est encore une autre question, mais ça peut être éventuellement relié quand même à la question de l'émission radiophonique qu'on va produire vendredi. Ça va être un peu trop long si je m'engage là-dedans, je crois. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer les exemples. Donc je peux vous les faire circuler. Ça c'est le journal sonore qui, en fait, bon allez, je reviens juste là-dessus. C'est en fait là, quand on a fait sur les émissions de radio, on a diffusé donc des émissions de radio des étudiants à la radio Studio ZEF, et on a quand même réalisé un journal sonore qui peut vous intéresser parce que c'est des témoignages des élèves sur ce que ça leur a fait d'écouter, en fait, de prendre du son. Donc j'aime bien cette idée aussi de parler de son, évidemment, sans, avec des matériaux papier, c'est bien aussi. Ça, c'est ce que je peux vous faire circuler aussi, c'est le journal, un autre journal, c'était pour faire le lien avec le journal sonore, c'est parce qu'entre-temps, on a créé une émission de radio propre à l'école du paysage, plus large, qui a été faite avec un journaliste qui s'appelle Feuille Vive, sur les relations ville-campagne, dans lequel il y avait les émissions des étudiants. Donc ça revient là-dessus. C'est peut-être moins adapté à l'exercice de cette semaine. Ensuite, ça, c'est la petite restitution de l'atelier qu'on a fait au début sur la question de la politique alimentaire. On nous a interrogé plusieurs années de suite, donc ça, c'est la toute première année. C'est sur la question de... Ça concerne qui, en fait, l'alimentation? Et là, on a réalisé des jeux de société qu'on a restitués dans un comice agricole, donc une sorte de grande fête paysanne où il y a plein de gens très différents dans ce genre d'endroit. Donc ça, c'est le conseil local de l'alimentation. Je vous en ai déjà parlé. Je te le fais passer comme ça, voilà, qui est un grand diffuseur. Celui-ci, je vous montrerai plus tard. Et celui-ci, c'est le dernier, c'est sur la complexité des paysages agricoles. On a restitué sous forme de marche. Voilà, là, c'est plus... il y a vraiment un problème de lien, pardon. Là, c'est plus... par exemple, ça, c'est un... On ne voit pas bien du tout, du coup, mais ça, c'était pour vous montrer que dans ces petits livrets, il y a à la fois le travail des étudiants, il y a des traces de l'atelier, il y a des traces des entretiens, sans qu'il y ait la totalité des entretiens. Hein, je n'ai jamais retranscrit leurs entretiens, parce qu'en fait, leurs entretiens, c'est du matériel brut, et ça leur appartient, je trouve. Donc, je ne travaille pas leur matériel sonore. Mais par contre, il y a par exemple ça, c'est une photo d'un immense panneau blanc où on a mis le résultat de plein d'entretiens différents. C'est le fameux moment au milieu de la semaine où on débat collectivement du sujet et on fait monter, là, c'est quasi magique, on fait monter une forme de complexité qui est assez enivrante presque. Voilà, alors est-ce que j'ai encore, j'ai combien ? 5 minutes ? Alors, si j'ai 5 minutes... parce que je voulais vous faire écouter un petit son, mais je vais très vite aller vers la fin, mais sinon on écoutera peut-être un petit son de ces étudiants-là qui sont allés enregistrer un projet, enfin qui ont réalisé une émission de radio sur un projet agricole de plantation d'arbres dans la Beauce. La Beauce, il n'y a plus d'arbres depuis longtemps maintenant, plus beaucoup en tout cas, et donc on verra, je vous ferai écouter peut-être après. Je voulais juste terminer quand même le développement sur la notion d'utiliser, qui était un peu la dernière attitude qui pour moi me semble intéressante dans la question de l'écoute, c'est effectivement de ne pas rester c'est pas inactif le terme que je cherche, mais en fait c'est un moment de fabrication, c'est un moment de quasi artisanal, en fait, de travailler le son. Et donc ça permet notamment, moi je trouve que ça permet particulièrement pour les paysagistes, mais je pense pour toutes les personnes qui s'intéressent aux transformations de nos espaces de vie, ça permet de comprendre les transformations à l'œuvre d'un lieu, d'un territoire, de les comprendre de la manière la plus complexe possible et en s'interrogeant avec les gens qui font ces transformations. Ça permet de débattre collectivement, ça c'est quand même très intéressant, et de donner de la valeur à l'oralité, à la parole. En fait, on a quand même beaucoup perdu cette valeur à l'oralité, enfin, on ne donne aucune valeur à l'oralité. C'est flagrant, par exemple, dans les écoles, on est toujours en train de se plaindre que les étudiants n'écrivent pas bien, alors qu'on pourrait se demander s'ils écoutent ou s'ils parlent bien. Et généralement, ils font ça très bien. Ça permet de dessiner une trajectoire complexe sur un territoire et sur une question qu'on nous a posée. Ça permet d'en dessiner une trajectoire complexe, partielle, parce que forcément, évidemment, on n'a jamais atteint, c'est ce qu'il faudrait être immortel, on n'a jamais fini, ça c'est génial. Circulaire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans comment les choses se répètent, comment les choses font écho, beaucoup plus que dans l'idée que les choses se succèdent de manière mathématique. Donc on est peut-être plus dans une représentation un peu circulaire des processus. Et politique, éminemment politique, évidemment, parce que ça nous permet de... Enfin, je vais pas me lancer dans un débat là-dessus, ça va être long, mais ça nous permet en tout cas de considérer les différences et de pouvoir essayer de composer un monde avec ces différences. Et enfin, ça permet surtout d'autres perspectives, ça permet de décaler les habitudes qu'on a, et notamment dans les écoles de conception, parfois on répète des gestes, on répète des habitudes, voire même on est obligé de subir des gestes de conception qui sont assez dominants, qui peuvent s'être installés avec le temps, ou qui s'installent pour des questions financières, etc. Et donc ça nous permet d'une certaine manière de dévier ou d'éviter ces gestes-là et de pouvoir essayer des nouveaux territoires d'études, des nouvelles perspectives. Et ça, je crois que non seulement les étudiants sont très demandeurs, mais on en a beaucoup besoin. Donc voilà un peu ce que je pourrais synthétiser, quoi. Écoutez, ce serait un peu ces trois attitudes qui permettent aussi d'encourager le positionnement politique de l'élève, en fait, de chaque élève. Voilà, pour conclure, comme ça reste un exercice pédagogique que je vous présente là, on en fait le bilan collectivement avec les étudiants. On se pose toujours ces deux questions. Enfin, je les formule plus clairement maintenant qu'il y a quelques années. Mais qu'a-t-on appris et comment l'a-t-on appris ? Ça permet de se questionner sur son chemin à soi, personnel, mais aussi sur le chemin collectif qu'on a passé. Ça permet évidemment de participer à la vie locale et à l'évolution des politiques publiques territoriales. Donc il y a un enjeu de transformation en tant qu'école et en tant qu'étudiant. Certes, on se forme, on apprend des choses en tant qu'étudiant et en tant que collectif, mais on transforme le territoire sur lequel on vit. Ça me semble essentiel pour l'avenir de nos établissements d'enseignement supérieur, mais pareil, je ne m'engage pas trop dans ce sujet-là, ce serait trop long. Ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux métiers. Ça aussi, ça me semble très intéressant, parce qu'on voit, on peut voir apparaître des interstices, des intersections sur lesquelles il y a probablement besoin de nouvelles pratiques, nouveaux métiers, nouvelles personnes. Et ça, on peut en débattre avec les élèves, et ça leur ouvre aussi des nouvelles perspectives professionnelles qui parfois ne sont pas toujours riantes dans le monde de la transformation des espaces publics, même si c'est un sujet passionnant. Mais enfin, pour ça, il y a deux enjeux, voilà, ça je voulais quand même le dire. Pour moi, il y a quand même deux choses, parce que là, ça a l'air positif tout le temps, mais il y a un vrai gros problème, c'est qu'on ne donne absolument aucune valeur au temps nécessaire, au temps de l'enquête, au temps des rencontres, au temps du débat. Ça, j'en parle souvent avec des anciens élèves qui disent « Mais si seulement on pouvait rémunérer les paysagistes professionnels en fonction du temps passé pour une étude, plutôt qu'en fonction du pourcentage de travaux. » Donc ça, c'est un... Je vous le livre comme ça en espérant qu'on puisse se liguer mutuellement. Et enfin, l'intérêt de laisser des traces, notamment sur les questions. Alors parfois, c'est facile de trouver des traces à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle d'un bâtiment, mais c'est assez difficile de trouver des traces à l'échelle d'un territoire. Plus on en laisse, plus on peut se dire que les autres après nous pourront les récupérer, les réutiliser, les manipuler. Voilà, laissons des traces. Et donc, juste en guise d'ouverture. En guise d'ouverture, on a testé avec les étudiants une année d'ouvrir le même exercice pédagogique sur les questions d'humains et d'autres qu'humains. Est-ce qu'on peut écouter les autres qu'humains en même temps que les humains ? Donc c'est une question qu'on s'est posée dans le cadre des auditions vers un Parlement de Loire auquel j'ai participé en 2001, il y a 3-4 ans. Et donc on a inventé, on s'est posé cette question-là, et on a inventé comme restitution une machine théâtrale capable de faire exprimer les conflits de Loire, sauf qu'on intègre aussi les questions interespèces, enfin humain dans l'humain et interespèces. C'est juste, je l'ouvre pour dire que c'est aussi donc la machine théâtrale, voilà à peu près le dispositif. C'est une machine qui permet, donc il y a un public qui est invité je vais être trop longue à expliquer, mais c'est une parole qui, enfin c'est les conflits qui émergent petit à petit grâce à la machine, grâce à à la scène, c'est-à-dire qu'en faisant dialoguer les personnes invitées qui prennent chacun des personnages, je vais réduire le truc parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais on fait émerger des conflits dont on n'avait pas idée avant. Or, c'est ces conflits qui auraient probablement besoin d'être réglés par un Parlement de Loire. Donc on est vraiment sur cette idée de pouvoir montrer des conflits. Et c'est comme des conflits, il y en a plein, il y en a qu'on cache, il y en a qu'on ne voit pas, etc. Donc ces conflits spatiaux, ils sont super importants. Et donc, ça rappelle aussi la nécessité de ce genre de dispositif pour pouvoir débattre des problèmes. Voilà, donc on a édité aussi, hein, donc là on voit des participants qui jouent le jeu. Voilà, il y a un petit livre de cette expérience, si vous voulez, puis on pourra en parler surtout en off. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de vous montrer le son, mais je pense que ça va être aussi, j'ai aucune idée. Parce que l'idée, c'était qu'on ait un temps d'échange aussi tous ensemble, avec le Leica. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que c'est pas trop cool. Est-ce qu'il y a des questions ?
J'ai une question. Pas encore. Mais je voulais savoir, juste pour faire le lien entre les deux présentations, comment cette forme sonore, à la fois de l'enquête et de restitution, commence à impacter ce travail politique que vous menez collectivement avec les étudiants pour faire bouger le territoire, pour le faire autrement. Et comment la forme sonore elle-même a permis des choses que peut-être d'autres formes. Qu'est-ce que ça a ouvert? Qu'est-ce que, d'une manière aussi, ce que ça s'élimine
Ce que ça a fermé. Alors déjà, j'ai pas été très claire. Il y a une seule fois, on a utilisé le matériel sonore pour des émissions de radio. Okay. Le reste du temps, on fabrique autre chose. On fabrique une machine théâtrale, on fabrique des jeux de société. Et là, le matériel sonore, c'est un matériel d'enquête, mais c'est pas un matériel de restitution. Ça, j'ai peut-être pas été très claire. Donc, 9 fois sur 10, on n'a pas utilisé le matériau pour la restitution. Par contre, le matériau sonore, il a beaucoup servi aux étudiants, à mon avis, justement, pour pouvoir se questionner de manière complexe sur les sujets qui leur étaient apportés par la collectivité. Donc, ça a modifié beaucoup les politiques locales. Par exemple, la politique alimentaire de l'agglo, enfin du Pays des Châteaux maintenant, elle est empreinte de ce qu'on a fabriqué, de ce qu'on a débattu, notamment quand vous avez vu le hall de l'école avec ce repas. Là, il s'est passé des choses. Alors, on ne peut pas les mesurer, mais moi, j'ai eu des retours après par différents acteurs locaux, par la personne directeur du Pays des Châteaux avec qui on travaille très conjointement. Donc, ça a modifié leurs idées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous interrogent. Ils nous interrogent en amont de leur politique. Quand ils sentent qu'une politique va naître, là, ils nous questionnent. Donc, c'est d'ailleurs une attitude très différente de répondre à une commande toute ficelée, quoi. On fabrique à faire naître une commande avec eux. Et du coup, ensuite, espérer des bonnes petites commandes mieux ficelées pour la suite. Et donc, moi, je pense que ça a modifié. La politique alimentaire, elle est intimement liée à Blois, elle est intimement liée au travail de l'école des paysages. Je n'en ai pas exactement les preuves, mais on me l'a dit, et puis je le vois, parce que ça fait maintenant 4-5 ans qu'on travaille sur ce sujet ensemble. Il y a certains outils de débat qu'ils ont empruntés à notre travail. Il y a l'organisation du conseil local, ils l'ont pris sur une proposition des élèves. Leur manière un peu, en s'interrogeant sur qui siège au conseil, en essayant de représenter davantage la diversité, ça, ils l'ont aussi pris en prenant les idées qui font émerger des entretiens. Donc, moi, en fait, je me dis que toute cette phase d'enquête sonore, elle permet avant tout aux étudiants de répondre de manière beaucoup plus complexe et inspirée d'une certaine manière, et non définitive, très ouverte, que si on leur avait dit, maintenant vous produisez un conseil local de l'alimentation, allez-y, vous savez faire, vous avez des beaux outils graphiques, ils sont forts en graphisme, donc ils auraient pu faire les mêmes dessins, enfin les mêmes propositions, mais elles n'auraient pas eu la puissance politique, je pense, que là ils ont eu.
Vous avez utilisé ce terme de faire émerger la complexité, je crois que c'est très beau comme image.
Et c'est ce qui fait aussi que les gens, quand ils viennent maintenant, parce qu'ils sont un peu habitués, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille de cette manière, donc il y a plein d'acteurs locaux qui au début étaient un peu réticents quand je les contactais, parce que c'est quand même moi qui en discussion un peu avec les élèves en amont, mais c'est quand même moi qui prends les rendez-vous avec les élèves, avec les acteurs, avec les entretiens, sinon ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc quand je les contactais au début, pour les entretiens, les gens au début étaient réticents, fallait que j'appelle deux fois, trois fois, limite fallait qu'on se rencontre, ça me prenait un temps fou. Maintenant, je contacte n'importe qui, vraiment des gens que je connais pas, ils font « Ah oui, l'école du paysage, mais bien sûr, hein, les ateliers que vous faites avec le Pays des Châteaux, ah oui, ça va nous faire réfléchir, pas de problème, rendez-vous mardi 17h, je pourrais... » Alors j'ai des idées, ils viendront chez moi, puis après on fera une promenade à tel endroit, puis on ira voir telle parcelle, ils me disent « Ça va, c'est comme ça ?» Je fais « Très bien, amusez-vous bien avec eux, il y en a qui les invitent maintenant à déjeuner, enfin... » Et maintenant, je crois que c'est un peu... Enfin, c'est vrai que maintenant, il y a une sorte de... Les personnes, enfin, les personnes, tout le monde n'est pas... Il y a forcément des gens qu'on ne voit pas, et il y a évidemment des invisibles, donc c'est pas tout rose, évidemment. Mais en tout cas, toutes les personnes qu'on arrive avec qui on arrive à travailler, là, j'ai l'impression qu'elles ont compris que l'école du paysage et les étudiants à ce moment-là, notamment, mais du coup, d'une manière un peu plus large, c'est plus un lieu où on peut fabriquer des politiques publiques qu'un lieu où on vient chercher une expertise située, très précise, quoi. Et ça, je crois que pour des paysagistes qui travaillent sur un sujet, enfin le paysage, c'est complètement décloisonné comme sujet, mais comme l'architecture, comme la ville, enfin tous ces sujets-là, ça fait du bien, quoi, je pense.
Je pense en plus qu'à partir du moment où un élu ou un technicien voit quelque chose, il y a une graine qui se plante. Il y a quelque chose qui se... Et donc même si c'est pas visible tout de suite, ça fabrique toujours un déplacement.
Ouais.
Systématiquement.
Ouais.
Je trouve que ça, c'est.
Et puis, il voit que. Oui, c'est du lobbying, bah, carrément, on ne s'est pas caché, hein, c'est vraiment.
Mais non, mais c'est... non, mais aussi, bien sûr.
Ouais. Mais c'est du lobbying dans les deux sens, c'est aussi du lobbying pour les étudiants, ce qui est bien. Moi, là, je trouve qu'il y a un vrai principe d'intérêt commun de formation et de place politique dans le territoire dans lequel on vit. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est que les personnes savent, enfin, ou demandent aux étudiants, par exemple, qui d'autre ils ont entendu. Donc, ils s'intéressent et se disent « Ah tiens, là, vous avez rencontré la directrice de la Banque alimentaire. Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'en fait, ça fait partie du sujet. Ah tiens, vous avez rencontré la FNSEA. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être pas faire sans eux. » Et du coup, il y a aussi, je pense, cette espèce de regard, de co-regard, quoi, où on se dit que, ah oui, ça implique aussi un tel et un tel et un tel. Et on n'est pas seul, et ça, je pense, dans la tête d'un élu, c'est quand même toujours bon, quoi. Enfin, dans mes lieux ou n'importe quel autre métier. Hein.
Parce que moi je suis allée pas mal dans différents lieux de travail, mais qui n'ont rien à voir. Et moi j'ai eu l'impression que aussi ce que ça a apporté l'enquête sonore par rapport à d'autres médiums, comme par exemple la vidéo, j'ai l'impression que ça m'a permis de rentrer dans des endroits où je ne serais pas rentrée. Et finalement, le micro est. On oublie, c'est pas aussi, on se sent pas aussi content, ausculter, regarder. J'ai réussi à faire rentrer des micros à la poste, faire rentrer un photographe, ça a été hyper compliqué, par exemple. Des choses comme ça, est-ce que toi, tu as
tout à fait l'impression ? Je pense à deux exemples, par exemple, les étudiants qui ont travaillé sur les noirs, enfin sur les arbres en Beauce. C'est un sujet assez tendu parce que, en Beauce, c'est tendu parce que c'est l'agriculture intensive, etc. On peut imaginer, vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs. Et du coup, les étudiants ont dit, ils faisaient tomber des noix sur la table. Les étudiants disaient, ah, on enregistre les noix. Donc, ils ont posé le micro près de la table, on entend les noix qui, donc, c'était dans le son que vous voulez vous faire entendre, il y a ce bruit-là. Mais en fait, derrière, les autres, du coup, se mettent à parler, les agriculteurs. Et en fait, ils se mettent à dire des choses hyper importantes sur la peur d'être mal jugé, etc., qui émergent. Ils savent que c'est enregistré, hein, c'est pas caché, mais ils voient plus le micro comme effectivement quelque chose qui les observe eux. Et ils laissent la parole advenir. Et il y a eu un autre exemple dans les jardins de Coquenne, qui sont un lieu d'insertion et de maraîchage, où les étudiants, là c'était pas, il n'y avait pas spécialement un conflit, mais les étudiants, il n'y avait pas un problème avec l'enregistrement, mais on leur a proposé aux étudiants de travailler, de se mettre à ramasser, je crois que c'était des haricots à ce moment-là. Donc l'étudiante pose le micro au sol, et ensuite on entend petit à petit les voix qui s'éloignent parce qu'elles sont en train de ramasser les haricots, et là il se dit plein de choses. Mais dans ce micro un peu lointain, et qui est presque plus un micro d'enregistrement, c'est quasiment juste un témoin, enfin c'est plus un entretien, c'est un témoin de ce qui est en train de se passer. Moi j'adore cette scène parce qu'on les entend parler, c'est audible, hein, mais c'est juste fin, et petit à petit on entend l'abeille qui est plus proche, etc. Parce qu'en fait le micro était laissé pendant hyper longtemps, parce qu'en fait l'étudiante a probablement complètement oublié qu'elle enregistrait à ce moment-là, et elle l'a gardé dans sa création sonore. Si vous avez des questions aussi pour le LALCA, vous pouvez. Hein, on s'était dit qu'on faisait un croisement, donc je ne sais pas s'il restait 5 minutes. Ou...
Du coup, ça me fait penser à la question du positionnement du micro aussi. C'est-à-dire que du coup, à partir de demain, vous avez peut-être déjà commencé, hein, mais à enregistrer. Et sur les photos, jouer avec le micro. C'est vrai que on essaie d'être très proche des gens pour capter au maximum leur voix, mais en fait, selon ce qu'on veut, c'est pas forcément facile, du coup. Enfin, en tout cas, il y a un choix aussi dans le positionnement du micro, la distance qu'on a par rapport à l'objet qu'on a envie d'enregistrer.
Oui, moi, je voulais poser la question sur la matière sonore que vous avez pu récolter. Quand vous avez fait la restitution en plateau radio, comment est-ce que vous l'avez travaillé, cette matière sonore? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous l'avez surtout commenté? Est-ce que vous l'avez monté le... Est-ce que vous avez fait un montage au long cours? Ou est-ce que vous avez plutôt choisi certains éléments et pu les commenter ou...
Alors c'est donc là, mais par contre je pense qu'il me faut le peu qui va se connecter à mon téléphone. On a fait une émission par groupe, donc chaque groupe avait une émission de radio à faire, ils savaient qu'ils allaient avoir un créneau. On a fait un jingle commun, tout ce qui a été dit ce matin c'est super, hein. Enfin, c'était très bien ce matin je pense pour expliquer comment transformer une matière en émission de radio. Donc il y avait effectivement un jingle commun, puis une introduction des élèves, puis leur matière, enfin leur création sonore. Parce que pour certains, on est à la limite quand même du compréhensible, mais c'est pas grave, hein, je trouve ça très bien que ça existe sur les radios associatives et dans le service public si ça continue. Et donc en fait, c'est ce que vous trouvez là. Donc ça, c'est le site internet de l'émission qu'on a construit avec Studio Zef. Et donc dedans, il y a les 10 émissions des élèves. Donc elles sont là. À chaque fois, il y a 10 émissions. Donc si on prend celle-là, par exemple, il y a celle d'un groupe d'élèves. Donc, chaque groupe d'élèves a été jusqu'à créer son émission de radio. Donc voilà, à chaque fois, il y a un petit texte qui explique, il y a des liens, il y a qui est interrogé. Voilà, il y a le nom des élèves, et puis on peut écouter. Et on a fait ensuite un plateau radio collectif. Ça, moi, j'adore faire ça, parce que c'est trop drôle. Donc on a fait ça. Donc là, c'est une émission de radio avec les étudiants, donc un plateau radio avec les étudiants pour débattre de ce qu'on a fait, de ce qui s'est passé, pour faire entendre des extraits. Et donc là, il y a un certain nombre d'étudiants, donc ils étaient, vous voyez, 5-6 là, avec moi. Et là, c'était une émission en direct. Donc ils ont aussi vécu une autre expérience de la radio qui n'est pas celle d'envoyer son objet sonore et de l'écouter avec émotion à son poste avec tous les autres membres de sa famille qui font la même chose chez eux. C'est quand même un beau moment d'émotion. Mais là, ils étaient dans le studio, en direct. Ils ont pris l'antenne, donc là, il y a des petits stress et tout, mais c'est super agréable. Enfin, moi, c'est super que ce soit dans les conditions du direct vendredi. C'est quand même le mieux. Et donc là, voilà, c'est une émission plus longue, d'1 heure. On débat sur l'exercice, sur ce qu'on a appris, et ça, c'est diffusé aussi à l'antenne. Donc on peut dire que ça touche aussi, parce qu'on ne sait jamais qui nous écoute à la radio, donc on se dit que ça touche aussi un certain public. Mystérieux et inconnu, mais... Donc là, moi je trouve ça intéressant parce que ça explique aussi la démarche, alors que quand on écoute que l'émission de radio, il y a une petite introduction, mais ça reste un peu une expérience, un peu comme quand on va voir un spectacle. Alors que là, c'est un peu comme si on écoutait les coulisses un peu, et on s'interroge sur l'aspect pédagogique, parce qu'on est une école, donc on est une école supérieure, une école d'enseignement supérieur, donc on se questionne aussi en tant qu'élève et pédagogue. Ça, je pense que c'est intéressant aussi à mettre sur les ondes, parce que c'est aussi un vrai sujet. Comment on fait pour apprendre, comment on fait pour changer ses habitudes, tout ça, je trouve que c'est bien que ça soit débattu. Qu'il y ait plus d'émissions de radio pédagogique dans les radios, ce serait chouette. Oui, Manu.
Moi, j'avais une petite question. Est-ce que la matière que produit une promo, est-ce qu'elle est réutilisée? Comment tu conserves tous ces enregistrements audio de chaque promo? Parce que c'est sur des thématiques différentes à chaque fois, mais c'est avec le pays des châteaux.
Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est l'intervention sur les archives qui m'y a fait penser tout à l'heure. Je me suis dit, là, toute cette matière, dans la matière des élèves, elle est mise sur un drive collectif, différent pour chaque promo. Moi j'ai le lien, et puis j'écoute pas en fait, moi j'écoute pas ce qu'ils enregistrent, je me dis que ça leur appartient, je pourrais, mais c'est pas privé, mais bon, c'est leur matière à eux, et moi par contre j'ai écouté leurs émissions, ça c'est sûr, mais uniquement l'aspect radiophonique, l'aspect brut, en fait, ça reste une matière un peu quasi morte, en fait, c'est vrai qu'on n'utilise pas et qui doit traîner sur les drives, il faudrait que je les compile, il faudrait que je les nomme, il faudrait que je les décrive. Et ça, c'est un travail que j'ai pas fait et que les élèves n'ont pas fait non plus. Et c'est, ouais, t'as raison, c'est dommage parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait une dizaine d'années d'archives. Et d'ailleurs, ça se voit dans la voix des gens, ça j'en suis sûre parce que les étudiants m'en parlent. Et puis même, je le vois dans les mails, quand j'écris des mails ou j'appelle les gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois que dans Le fait de parler, ça a changé en 10 ans. Les premiers entretiens, il y a plein de personnes qui se réservent, qui ne veulent pas tout dire, qui demandent à éteindre l'enregistreur, parce que c'est des vrais sujets de conflit, en fait, hein, les sujets spatiaux. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une démarche petit à petit où on a compris que ça avait un intérêt. Donc ça, peut-être on pourrait même le tracer comme dans les archives. Mais... Oui, non, tu as complètement raison, c'est la part aveugle du truc. Ouais. Il faut que je le fasse un jour. Oui, on ne peut pas tout garder, c'est vrai.
Nous, ce qu'on a livré aux archives, ce sont des retranscriptions, ce qu'on fait des retranscriptions, c'est des récits, donc c'est des 5 minutes. Ce n'est pas nos 4 heures de rush.
Ce n'est pas les rushs, oui.
D'une part, parce qu'il y a des choses qui sont privées, et puis des gens qui disent ça, je vous le dis, mais réagissant après coup, qui a les micros, nous dit, oh, en fait, on ne veut pas que cette information arrive. Donc, c'est ça. D'ailleurs, ça enlève de la retranscription aussi. Mais du coup, on ne livre que des matières qui a été travaillée.
D'ailleurs, c'est flagrant quand moi je restitue au Pays des Châteaux le travail, parce qu'il y a quand même quelque chose que je rends. Donc, on rend l'expérience le vendredi soir, enfin le vendredi quand on fait l'expérience, il y a ce moment-là quand même. Je rends le petit livret ou le journal 6 mois plus tard quand tout va bien. Je rends les matériaux de travail des élèves et les photos d'atelier. Par exemple, si on a scanné, quand on a pris en photo le grand tableau, tout ça. Mais par contre, je ne rends jamais les entretiens des élèves, considérant que je n'ai pas à les donner au Pays des Châteaux, que ça appartient aux élèves et aux personnes interrogées. Donc c'est vrai que, sans trop y réfléchir, spontanément, je me suis dit que ce n'était pas diffusable. Mais il n'empêche que ça reste une matière intéressante.
Et